Bienvenue à cette édition du 15 décembre des Apatrides Anonymes, votre rendez-vous mensuel pour une revue peut-être pas exhaustive, mais en tout cas en profondeur des actualités nationales et internationales relatives à l'immigration, au racisme, à l'extrême droite, aux abus policiers et aux questions autochtones. Mariève au micro pour la dernière émission de 2022.
Déjà.
Eh oui, on va pouvoir...
Mettre ça aux poubelles?
Bon, aux oubliettes, disons. Je suis accompagnée, comme il se doit, de Mathieu, qu'on vient d'entendre.
Bonsoir.
Bonsoir, et de Simon, qui est présentement en régie.
Allô, allô.
Hello.
Hello.
Vous allez bien?
Oui, merci, toi.
Oh oui.
Ben oui.
Alors, au programme aujourd'hui, Mathieu, toi, tu vas nous amener en Inde, où le régime se durcit de plus en plus.
Hein? Exactement, oui.
Et tu vas aussi nous faire le tour des actualités canadienne et québécoise en lien avec la police, le racisme, un peu aussi politique antiterroriste du Canada.
Exactement, quelques nouvelles là-dessus, oui.
Et toi, Simon, ben, ce sera les actualités, les enjeux migratoires tant en Europe qu'ici.
Oui, on va pas mal tourner autour de la Méditerranée, mais pas que.
Parfait. Et pour ma part, je vais vous présenter quelques brèves là sur l'enclave de Melilla et le Portugal, sur le faible taux de participation des Autochtones aux dernières élections provinciales, sur l'état de l'immigration au Canada et l'entente sur les tiers pays sûrs. On a des petits développements, des nouvelles fraîches. Et je vais finir avec quelques nouvelles en provenance de nos voisins du Sud. Alors, après quelques notes musicales, je vous parle du recul de la démocratie dans le monde.
Yeah!
Selon l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale, l'IDEA, qui est basé à Stockholm, près de la moitié des démocraties du monde sont en déclin, alors que les régimes autoritaires sont toujours plus répressifs. On vous en parle souvent. Dans son plus récent rapport, l'IDEA évalue ainsi que sur les 104 démocraties du monde, 48 sont en contraction, c'est-à-dire qu'elles ont enregistré des reculs sur plusieurs aspects, tandis que seulement 14 sont en expansion, donc là où il y a eu des améliorations, relativement aux indicateurs clés comme le respect des droits fondamentaux, l'existence d'un gouvernement représentatif ou d'une administration impartiale, la participation politique, le contrôle effectif du pouvoir exécutif et des élections compétitives. Les régimes autoritaires, ben, eux, ça inclut les régimes militaires, évidemment, les monarchies, les systèmes à partie unique et les États dits faillis, entre autres choses. Ce recul-là est une tendance lourde que l'organisme constate depuis plusieurs années. Entre 2016 et 2021, le nombre de pays qui ont évolué vers l'autoritarisme représentait plus du double du nombre de ceux évoluant vers la démocratie. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est que le soutien aux valeurs autoritaires est en augmentation un peu partout dans le monde, selon le rapport. Donc, le soutien populaire, là, c'est-à-dire des populations. Par exemple, le pourcentage de personnes qui appuient un leader fort qui, et je cite, « ne s'embarrasse pas d'un parlement et des élections », ben, l'appui est passé de 38 % en 2009 à 52 % en 2021, ce qui est quand même un
dans le monde.
Okay. Donc, ce qui est quand même un bond assez important. Pour revenir au rapport, en 2021, les 7 pays qui ont connu le plus fort recul démocratique étaient le Brésil, le Salvador, la Hongrie, la Pologne, l'Inde, dont tu vas nous parler, Mathieu, tantôt, l'île Maurice et les États-Unis,
Bien sûr.
Les Amériques, bon, demeurent quand même la deuxième région la plus considérée comme la plus démocratique au monde, malgré les reculs, et même s'il y a une nouvelle autocratie qui s'est ajoutée cette année, Haïti.
Oui, on peut dire ça, oui.
En Europe, la qualité de la démocratie, elle, ben, elle a stagné ou s'est détériorée dans plusieurs pays, dans 17 d'entre eux, qui représentent là, 43 % des démocraties européennes. La démocratie s'est dégradée au cours des 5 dernières années. Et sans grande surprise, c'est en Pologne et en Hongrie que le repli a été le plus important. La Russie, pour sa part, a basculé dans la catégorie des régimes autoritaires, rejoignant la Biélorussie et l'Azerbaïdjan. La démocratie est en recul aussi dans la région de l'Asie-Pacifique, où là, même des démocraties établies là, comme l'Australie, le Japon et Taïwan se dégradent. Dans la région, c'est évidemment là, le coup d'État au Myanmar qui a représenté le recul le plus important. Et sans grande surprise, ben, c'est le Moyen-Orient qui demeure la région la plus autoritaire du monde, avec seulement 3 démocraties. On en parlait tantôt, lesquelles?
On va dire entre guillemets des démocraties.
Oui, oui, mais selon le rapport.
Oui, le Liban.
Irak.
Oui. Ouais. Et Israël.
Et oui. Et dans cette même région-là, c'est la Tunisie qui a enregistré un important recul aussi en 2021, ouais. Lorsque le président là, Kais Saied a gelé les activités du Parlement puis suspendu la Constitution. Ouais. Puis depuis, il y a une nouvelle Constitution qui renforce là, vraiment beaucoup les pouvoirs du chef d'État qui a été adopté. La seule note positive du rapport, puis je vais terminer là-dessus avant de te céder le micro, Mathieu, c'est le continent africain qui, lui, se démarque par sa résilience. Il y a plusieurs États, dont la Gambie, le Niger et la Zambie, qui ont vu des améliorations démocratiques marquées, selon le rapport. La Gambie est d'ailleurs un des succès de l'année 2021. Le pays s'est démocratisé à une vitesse fulgurante depuis la chute du régime de Yahya Jammeh en 2016.
Oui, je me rappelle. Ouais.
Alors, ça met bien la table pour toi, Mathieu,
ben
qui
oui,
nous parle de l'Inde.
T'es super, Marie-Ève. Quelle intro. L'Inde, j'ai plusieurs petites nouvelles. Je vais revenir un petit peu en arrière aussi dans ma série de répression et de régime autoritaire. On va revenir au 30 juin pour expliquer un peu ce qui se passe actuellement. Des membres de la diaspora sud-asiatique ont organisé des manifestations partout dans le monde pour tirer la sonnette d'alarme sur le démantèlement de la soi-disant plus grande démocratie du monde, Marie-Ève. Donc, ça se passait un petit peu partout autour de la planète. Qu'est-ce qui s'était passé? Ben, le 27 juin, la Cour suprême de l'Inde a donné son feu vert à l'arrestation de 2 défenseurs des droits humains très connus en Inde, Tista Setalvad, célèbre militante et défenseur de la justice des minorités, qui a été arrêté sans mandat après la décision de la Cour suprême, et aussi R.B. Srikumar, ancien directeur général de la police du Gujarat, parce qu'il avait témoigné dans une procédure liée au génocide de 2002 dans cet État-là, dont on avait déjà parlé, qui était contre le ministre en chef de l'État de cet État à l'époque, Narendra Modi.
Ben oui.
On a déjà parlé ici à l'émission. Peu après, le journaliste Mohamed Zuber, d'Alt News, un site web de vérification des faits, a été arrêté pour atteinte aux sentiments religieux. Donc ça se passait fin juin. Le groupe à Montréal, India Civil Watch, que je suis un petit peu, c'est des gens de la communauté sud-asiatique qui militent contre le régime là-bas, avait déclaré à l'époque « La plus grande démocratie du monde est devenue le fief personnel des ethno-nationalistes hindous. Mm. Le système judiciaire suit les caprices du parti d'extrême droite au pouvoir, le BJP. Hein? » Les arrestations ont eu lieu après que la Cour suprême de l'Inde a rendu une décision dans une affaire liée aux événements de 2002, où il y avait eu plus de 1000 musulmans qui avaient été tués. Ces événements ont été largement considérés comme un pogrom contre les musulmans à l'époque. Zakia Jaffry, dont le mari a été tailladé membre par membre puis brûlé vif en 2002, avait adressé une pétition au tribunal avec le soutien de Tista Setavad, de la militante. Il a fallu presque 2 décennies pour que la pétition arrive enfin à la Cour suprême, donc la plainte. Le 24 juin 2022, donc juste avant les arrestations dont je vous parle, la Cour a rejeté la pétition, qualifiant les revendications de fausses et motivées, et a réprimandé Mme Setalvad pour son audace à mettre en doute l'intégrité de chaque fonctionnaire impliqué dans le massacre à l'époque.
Fausses et motivées, tu veux dire, dans le sens de biaisé.
Oui, intéressé, là, c'est ça. Exactement. Dans un tournant alarmant, le tribunal a déclaré que les pétitionnaires étaient ceux qui devaient être sur le banc des accusés. C'est la Cour suprême qui dit ça quand
même. Rien, non?
Et donc, Setalvad et Srikumar, le policier en question, ont été accusés de conspiration pour ternir l'image de l'administration du Gujarat, hein, quand même.
Rien de moins.
Finalement, Mme Setalvad a été libérée sous caution en septembre, mais la suite des procédures s'en viennent. Sinon, une drôle de nouvelle, en septembre, à l'aide, le BJP et d'autres groupes Hindutva, ça c'est l'idéologie extrême hindoue, de Leicester, Royaume-Uni, ont alimenté des conflits violents au sein de la communauté sud-asiatique. Des centaines d'hommes masqués ont défilé dans un quartier majoritairement musulman de Leicester en scandant le slogan « Jai Sri Ram » utilisé par les foules suprémacistes hindous. Parmi les manifestants se trouvaient des fascistes blancs d'extrême droite qui étaient avec les Indiens, les hindous quand même.
C'est tombé étrange.
C'est assez, j'ai quelques petites nouvelles étranges comme ça. Sinon, il y a eu l'acquittement de Gokarakonda Naga Sai Baba, militant et professeur à l'Université de Delhi. Les autorités indiennes l'ont pris pour cible parce qu'il dénonçait la violence et la discrimination dont sont victimes les Dalits et les populations indigènes en Inde. Monsieur Sai Baba a initialement été arrêté par la police en 2014 et accusé d'entretenir des liens avec des organisations maoïstes interdites. En mars 2017, il a été déclaré coupable au titre de la loi relative à la prévention des activités illégales et condamné à la réclusion à perpétuité. Mais le 14 octobre dernier, la Haute Cour de Bombay l'a acquitté, ainsi que ses 5 co-accusés, dont une qui était morte déjà en détention. Mm. Mais ça va sûrement se retrouver en Cour suprême. Donc ça, c'est un autre cas là, t'sais, où ça bouge. Mais il y a plein de lois répressives en Inde. Exemple, une, la Cour suprême indienne a décidé de suspendre récemment l'application de l'article 124A du Code pénal indien en attendant sa révision qui va prendre plusieurs mois. Cette loi qui permet de frapper d'amende ou d'emprisonner toute personne sous des motifs vagues de sédition à l'encontre du gouvernement soulevait d'autant plus de protestations que l'actuel premier ministre,
Maudit,
en fait amplement usage depuis sa première élection en 2014. Elle a été utilisée 405 fois entre 2010 et 2021, dont plus de 90% depuis qu'il est au pouvoir.
Ben ouais.
Ce sont 13 000 personnes qui ont été mises en prison en lien avec 800 actes de sédition depuis 2010. Cet article date de 1890, c'est-à-dire de la période de l'impérialisme britannique. Avant l'indépendance du pays, Gandhi en a fait les frais parmi bien d'autres aussi.
Ah non, mais c'est parce que des quantités comme ça, je veux dire, s'il y avait, mettons, dans n'importe quel autre pays comme le Canada, s'il y avait autant d'actes supposés de sédition, le gouvernement serait tombé, ça fait longtemps.
Ben oui, il y a 6 lois en Inde là, pour, non, par rapport ça. À ces actes dits terroristes ou séditieux. Ouais. Sinon, ben ici, un communiqué du même groupe, l'India Civil Watch, a dénoncé que le drapeau hindouiste a été hissé sur la colline du Parlement à Ottawa. Plusieurs organisations ont demandé une action immédiate du premier ministre. Ça, c'était fin novembre. Le drapeau en question est celui d'un groupe nationaliste hindou, le RSS, dont j'avais déjà parlé, interdit 3 fois dans l'Inde indépendante, notamment à cause de l'assassinat du Mahatma Gandhi. Quand même, c'est eux qui étaient les responsables. Le fondateur du groupe s'est inspiré de l'idéologie nazie pour maintenir la pureté de la race hindou. Le gouvernement du Canada, on a demandé au gouvernement du Canada de se dissocier de ce drapeau et prendre des mesures contre le député libéral Chandra Arya, qui est l'auteur de cette initiative. Donc, c'est dans un cadre de la semaine du multiculturalisme du Parlement
ouais,
à Ottawa,
ouais,
quand
non,
même.
Oui, c'est ça. Il y en a qui n'ont pas lu leur...
leur histoire récente du 20e siècle. Sinon, ben cette semaine, en 13 décembre, c'est l'OPA dont tout le monde parle en Inde. L'OPA, c'est offre publique d'achat. Celle de Gautam Adani, 3e fortune du monde mondial et proche du premier ministre Modi, qui veut acheter NDTV, la dernière chaîne d'information qui laissait jusqu'ici entendre les voix discordantes et critiques du gouvernement indien. De quoi éveiller de nouvelles craintes quant à la liberté de presse, qui ne cesse de reculer selon le classement d'RSF en Inde. Et finalement, ben des supporters agressés après la victoire du Maroc contre le Portugal, c'était il y a quelques jours. Des supporters de l'équipe du Maroc ont été violemment agressés par des manifestants de l'Hindutva qui ont exprimé de nouveau leur haine contre le Maroc, pays musulman. Depuis le début du tournoi, les exploits du Maroc et des autres pays arabes ont été mal perçus. Les mêmes scènes ont été observées après la victoire de l'Arabie saoudite contre l'Argentine au premier tour.
Là, tu parles en Inde, là.
Oui, en Inde. Excuse, oui, les supporters du Maroc en Inde.
Oui, j'étais comme, attends, là.
Ben, c'est-à-dire des musulmans qui appuient les pays musulmans, donc, à la Coupe du monde. Okay. S'il me reste 30 secondes.
Oui, t'as 30 secondes.
Parfait. Un article que je vous suggère qui s'appelle « Démolition de maisons en Inde, encore un crime de guerre à l'israélienne contre les musulmans », parce qu'ils font comme en Israël, ils démolissent les maisons des militaires arrêtés. Mm-hmm. C'est un article sur Middle East Eye, comme œil, du 1er juillet 2022, ça fait quelques temps. Puis juste un petit, c'est les récents développements en Inde doivent être analysés dans le contexte d'une guerre contre les minorités musulmanes au sein d'une nation islamophobe. C'est une Indienne musulmane qui raconte, ben, qui analyse la situation actuelle, d'où ça vient, pourquoi, où ça s'en va. Puis il y a plein d'informations intéressantes. Donc, un article sur Middle East Eye, démolition de maisons en Inde, une autre pratique discriminatoire et violente contre les minorités musulmanes en Inde. Donc, un petit topo,
ça,
là.
Ben oui, ça valait la peine.
Ben merci.
Non, mais c'est vrai. On va aller en musique, puis avec la pièce Tout que je vais vous présenter au retour.
Takes time and time.
C'était le trio londonien Big Joanie qui se décrivent elles-mêmes comme du punk féministe noir. On a entendu la pièce Tout qui est tirée de leur plus récent album Back Home, paru en novembre et qui figure à la 13e position du palmarès anglophone Choc. Avant de poursuivre avec Simon, une nouvelle plutôt insolite. Le 1er décembre, il y a un migrant qui est parvenu à rentrer dans l'enclave espagnole de Melilla depuis le Maroc voisin, en parapente, imaginez-vous ah donc. Bon.
Il partait d'où exactement?
Aucune idée. La garde civile espagnole, elle, a été envoyée sur place là, assez rapidement, mais elle n'a jamais été en mesure de le localiser. D'ailleurs, là, on sait toujours pas ni son identité, ni sa nationalité, puis il n'a jamais été rattrapé. Selon le porte-parole de la préfecture, c'est la première fois qu'une personne migrante entre à Melilla de cette façon-là.
Ben ouais.
Mais comment ils savent que c'est une personne migrante?
Je sais pas.
Une petite colle pour moi.
Ça peut être un humoriste québécois. Hein?
Ouais. Ben ouais, c'est ça. Mais c'est ça, donc c'est la première fois apparemment. Bon, évidemment, d'ordinaire, là, les exilés escaladent les barrières grillagées de plusieurs mètres de haut là, qui sont équipées de caméras et de miradors. Ces tentatives de franchissement sont d'ailleurs dangereuses et parfois mortelles. Si vous vous rappelez, le 24 juin dernier, il y a au moins 23 migrants qui ont péri en tentant de pénétrer à Melilla. Mais selon Amnesty International, dernièrement, ce serait plutôt au moins 37 personnes qui seraient décédées dans le drame et il y aurait 77 personnes qui auraient disparu. Donc, ça se poursuit, cet enjeu-là. Et dernière petite nouvelle, cette fois en provenance du Portugal, où 35 personnes ont été arrêtées pour trafic d'êtres humains dans la région de Alentejo, qui est dans le sud du pays. Ça se passait à la fin novembre. Elles sont soupçonnées d'avoir exploité des personnes migrantes dans des fermes au Portugal. Les documents d'identité des travailleurs leur étaient confisqués. Ils vivaient entassés dans les logements vétustes et leurs déplacements étaient limités, en plus, évidemment, d'être sous-payés. Les dizaines de victimes de ce trafic-là qui ont pu être identifiées sont originaires là, d'un peu partout, Roumanie, Moldavie, Inde, Pakistan, Sénégal, Maroc ou encore Algérie. Les suspects, quant à eux, sont de nationalité portugaise et, ou d'autres pays européens. Ce trafic d'êtres humains-là s'est multiplié ces dernières années au Portugal, d'après un rapport du groupe d'experts sur la lutte contre la traite des êtres humains, qui est dépendant du Conseil de l'Europe. Les autorités portugaises ont signalé 1152 victimes de ce type de réseau-là entre 2016 et 2020, mais c'est probablement vraiment plus élevé. Mais bon, en lisant là-dessus, j'ai quand même appris que contrairement à de nombreux autres pays, au Portugal, lorsqu'une personne est reconnue comme étant victime de traite, elle est hébergée dans un refuge où elle peut rester aussi longtemps qu'elle veut et où elle va bénéficier à la fois d'un soutien psychologique, mais aussi d'une aide pour accéder au marché du travail. Donc, je savais pas ça. Alors, à toi, Simon.
Oui, ben non, un petit commentaire. C'est un peu inquiétant parce que les réseaux de traite humaine, on les pensait plutôt concentrés en Libye. On a l'impression peut-être qu'ils se multiplient puis qu'ils se reproduisent un peu partout. Donc,
Je pense qu'ils profitent de la manne autour de la crise là, de la main-d'œuvre puis la pénurie de main-d'œuvre. Ouais. Les pays européens sont comme, pas juste en Europe, là, mais paniquent avec ça. Fait que j'ai l'impression que ça profite à du monde. T'sais.
Effectivement. Sinon, j'ai quelque chose qui accote presque l'histoire du parapente là, sur les îles Canaries. J'y reviens tantôt. Je vais aussi vous parler de plusieurs enjeux qui créent des débats assez houleux, disons, entre les États de l'Union européenne. Et j'aurai quelques infos sur les îles Canaries et la Crète. Je vais commencer par une autre des grandes îles de la Méditerranée, complètement à l'est, à Chypre, qui détient le record européen des expulsions. Donc, 7000 personnes expulsées en 2022 ou 70% des personnes arrivées de manière irrégulière dans son territoire, souvent par avion ou bateau jusqu'à la partie orientale, donc turque de l'île, puis de manière terrestre jusqu'à la zone tampon qui sépare les parties turques et grecques de Chypre, partie grecque qui fait partie de l'Union européenne. Donc, le record de renvoi concerne la partie grecque de l'île.
Ouais.
En 2021, contrairement à 70% cette année, c'est 17% des personnes arrivées régulièrement qui avaient été expulsées. Donc, je pense qu'on peut parler d'une explosion des expulsions. Phénomène qui est pas étranger au fait que le gouvernement chypriote a spécialement créé cette année un bureau dont le seul mandat, le principal mandat, c'est les expulsions.
OK, puis ça n'existait pas avant, c'est ça?
Ben, j'imagine que c'était du ressort du ministère de l'Intérieur de l'Immigration, mais là, il y a vraiment une entité, une structure administrative dont le mandat, je peux dire, il y a le directeur des expulsions.
Oui, c'est ça.
Faut dire que le nombre d'arrivées irrégulières a doublé depuis l'année dernière et faut aussi préciser que Chypre a signé des pactes migratoires avec l'Inde, le Bangladesh, le Pakistan et le Vietnam. Je sais pas pourquoi. Toujours dans l'est de la Méditerranée, une autre des grandes îles, la Crète, un sauvetage qu'on peut qualifier d'historique ou de spectaculaire, 483 migrants.
Aïe, aïe.
Tous sur la même embarcation, des Égyptiens, des Pakistanais, des Soudanais, mais surtout des Syriens, dont 130 mineurs. Sur un seul genre de chalutier, pas si gros que ça et en très mauvais état, qui était à la dérive sur une mer déchaînée et qui a été remorqué par les gardes-côtes grecs jusqu'à l'île de Crète. C'est le plus important sauvetage des dernières années en Méditerranée, selon les autorités grecques. Le bateau était parti de l'est de la Libye. Pour remettre en contexte, une des routes migratoires les plus fréquentées qu'on connaît là, et qui est bien organisée, c'est la route libyenne, mais qui part de l'ouest de la Libye, donc près de Tripoli, pour rejoindre des îles italiennes, que ce soit Lampedusa, Linosa, la Sicile ou Malte, qui n'est pas une île italienne, mais qui est dans la même région. Mais pour des migrants qui arrivent de l'Est, comme du Proche-Orient ou justement de la Syrie, traverser complètement la Libye d'Est en Ouest sur toute la longueur du pays, sur 1200 km, c'est devenu tellement dangereux que les réseaux de passeurs offrent de plus en plus cette alternative à partir de l'Est du pays au prix très fort, entre 3000 et 4000 euros par personne, deux fois plus cher que si on part de l'Ouest de la Libye. Cette nouvelle route, c'est une traversée d'environ 350 km, si le bateau ne se met pas à dériver, évidemment. Donc, on devrait voir se dessiner et grossir dans les prochains mois et prochaines années cette deuxième route méditerranéenne qui part de l'est de la Libye, près de la frontière égyptienne, avec cap sur Crète, sur l'île de Crète. Donc, leur sort aux presque 500 rescapés qui ont été pris en charge, si on peut dire, par les gardes-côtes grecs, est loin d'être réglé. Mais c'est encore heureux qu'ils n'aient pas pu être débarqués à Crète parce qu'il y a un nouveau rapport de Human Rights Watch, cette fois-ci, qui vient de sortir il y a à peine quelques jours et qui dénonce encore une fois la complicité de Frontex avec les gardes-côtes libyens. Et là, on ne parle pas juste de la passivité de Frontex qui, avec ses avions, ses drones de surveillance, signale aux autorités libyennes carrément et avec précision l'emplacement des embarcations des migrants en mer. Donc, c'est plus juste on laisse faire.
C'est activement prendre part.
C'est ça. On envoie des messages aux garde-côtes libyens, vous dites, il y a telle embarcation à telle position maritime. Maintenant, avant d'aborder des enjeux plus de fond sur l'Union européenne, une nouvelle un peu insolite, celle que je disais qu'elle est peut-être à côté de l'histoire du parapente. On est dans l'Atlantique sur la route migratoire des îles Canaries. Trois hommes ont survécu à un voyage extrêmement dangereux, une traversée de 11 jours entre le Nigeria et les îles Canaries. Donc, regardez un atlas si vous n'êtes pas familier avec la région. Donc, entre le Nigeria et les îles Canaries, c'est très, très loin. Les trois hommes ont voyagé sur le gouvernail d'un énorme pétrolier de presque 200 mètres de long. Oui, c'est hallucinant. Il était complètement exposé aux éléments, aux vagues, au mouvement du bateau et au mouvement du gouvernail lui-même. Un peu comme coincé sous l'arrière de la coque gigantesque du navire et la surface de l'eau. J'imagine assez houleuse aussi. Donc, je vous rappelle qu'on est sur l'Atlantique. Faites une recherche d'images pour les gens qui nous écoutent. Donc, trois hommes, gouvernail, canaris, vous allez tomber dessus. Les trois voyageurs ont l'air tout petits. C'est vraiment un très, très gros bateau. Donc, ça donne le vertige. Et c'est pas la première fois que des migrants voyagent clandestinement sur le gouvernail d'un gros paquebot. Mais c'est extrêmement rare. Infomigrants retrace deux autres incidents du genre dans les dernières années.
OK.
Les secours espagnols ont pris en charge...
Est-ce qu'ils disaient si c'était des traversées aussi longues que celle-là? Parce que là, celle-là, c'était 11 jours.
Je disais deux autres incidents qui avaient été retracés. J'ai aucune idée. C'est juste une information en vrac comme ça. Donc, ces trois hommes-là qui étaient sur le gouvernail ont été... c'était trois Nigérians. Ils ont été amenés sur la terre ferme, là, sur une des îles de l'archipel des Canaries. Les ONG pensent qu'ils ont été autorisés à faire une demande d'asile au gouvernement espagnol, mais c'est pas confirmé. Donc, parlant de bateaux qui naviguent vers l'Europe avec des migrants entassés, il y a l'Ocean Viking, le bateau de sauvetage de l'ONG SOS Méditerranée, qui a défrayé beaucoup les manchettes dans les dernières semaines, parce qu'avec 230 migrants rescapés à bord, le nouveau gouvernement italien, lui, refusait l'accès à tous ses ports. Il y a eu tergiversation entre plusieurs États, ce qui a fait en sorte que le bateau a tourné en rond en mer pendant 20 jours, avant d'avoir l'autorisation de débarquer à Toulon, dans le sud de la France, où on les a immédiatement placés dans une zone d'attente fermée, aux grandes dames des associations qui auraient souhaité les accueillir en personne pour les aider, pour voir comment ils vont, premièrement, pour les aider dans les démarches, les questions de demande d'asile, de logement, santé, etc. Donc, grosse chicane entre Paris et Rome, le gouvernement français répétant que l'Italie ne respecte pas le droit de la mer et qu'on ouvrait le port de Toulon à l'Ocean Viking à titre exceptionnel seulement. Donc, ça a été bien répété plusieurs fois par notre préféré.
Oui, parce qu'il ne veut pas créer un précédent.
C'est ça, on ne veut pas ouvrir les vannes. Il y a eu par la suite plan d'urgence au niveau européen qui a été adopté à la fin novembre. On proposait 20 mesures, non pas pour financer davantage les opérations de sauvetage, mais pour augmenter le financement et la collaboration entre les différents pays européens et l'Égypte, la Tunisie et la Libye. Donc, imaginez, donc on va financer les gens pour renvoyer les... financer finalement les... les mesures. les mesures de protection frontalière, c'est ça, pour faire en sorte qu'il y ait plus de renvois vers la Libye où les conditions sont abjectes, on le sait, où il y a de la traite de la personne. Tout ça, en gros, pour ne pas que se reproduise le soi-disant gâchis de l'Ocean Viking. Donc, il y a notre préféré, Gérald Darmanin, qui insiste sur une meilleure relocalisation des migrants à travers l'Europe pour soulager les pays maritimes. Mais en même temps, il est complètement fermé à une relocalisation de ces migrants-là qui étaient sur l'Ocean Viking vers la France. Donc, il dit, oui, il va falloir mieux redistribuer. En attendant, je boude.
Mais pas chez nous.
Pas chez nous, c'est ça. Puis, je ne sais pas s'il pense faire de la pression sur les autres États. Pas sûr que ça va marcher comme ça. Sinon, très, très rapidement, parce qu'on achève, on n'achève pas l'émission, mais moi.
il y a une Ton poursuite. Temps est compté, Simon.
Oui, je sais, mais il y a une poursuite qui va être intentée bientôt contre différents hauts fonctionnaires et dirigeants européens, dont notre préféré, Matteo Salvini en Europe, ancien des ministres maltais, entre autres. Il y en a qui collectionnent les foyers sur leur cheminée. Salvini, lui, c'est les poursuites. Pour, étant donné justement les renvois vers la Libye, comme c'est su que ça met les gens en danger vers la torture, soit la traite de personnes, poursuite à la Cour pénale internationale pour crime contre l'humanité, carrément.
OK.
Donc, à suivre, c'est backé par, je pense que Amnesty International est backé par Sea-Watch.
OK. À suivre. Plus de détails. On va vous donner plus de nouvelles sur ce dossier-là en 2023. En 2023. Quelques notes de musique et je vous reviens après ça. Toujours aux Apatrides Anonymes sur les ondes de choc.ca. Écoutez, loin de moi de faire l'idée de faire l'apologie du vote, mais force est de constater que des obstacles systémiques liés à la façon dont les élections se déroulent au Québec persistent et ont un effet direct sur le taux de participation des Autochtones aux élections. Par exemple, dans Ungava, on a connu le plus bas taux de toute la province, avec environ 30 % tandis qu'il était de 70 % au niveau provincial. Dans les jours qui ont suivi l'élection, les communautés cries ont rapporté que des électeurs n'avaient pas pu voter, alors que ça avait été possible lors des élections provinciales précédentes. Au Nunavik, des cartes d'électeurs sont arrivées en retard, voire même pas du tout. Et donc, parmi les solutions proposées, il y a Tounou Napartouk, qui s'est présenté pour le Parti libéral du Québec, qui suggère que l'entité qui est chargée de superviser les élections embauche des travailleurs locaux parlant Inuktitut et Cree. C'est la moindre des choses. Il pense aussi que les équipes devraient commencer leur travail dans les communautés autochtones plusieurs mois avant le jour du vote et non la semaine précédente, comme c'est actuellement le cas. Ouais, c'est ça, ça en dit long sur les priorités.
L'intérêt,
hein. Ouais, voilà. D'autres suggèrent que le Québec devrait permettre aux citoyens et citoyennes d'être ajoutés à la liste électorale le jour même d'une élection, comme c'est permis lors des élections fédérales, en présentant, bon, deux pièces d'identité, une preuve d'adresse et en prêtant serment. Ce qui est pas fou, mais pour M. Napartouk, c'est pas si simple que ça, parce qu'il y a beaucoup d'électeurs du Nunavut qui n'ont pas de photos sur leur carte d'assurance maladie, parce que c'est difficile là-bas d'obtenir une photo qui soit admissible.
Okay.
Il suggère qu'Élections Québec devrait plutôt envisager de nommer des représentants de chaque communauté qui pourraient être, eux autres, autorisés à se porter officiellement garant des électeurs. Mais, puis en plus de ça, il faut ajouter un enjeu territorial, si on peut dire. Par exemple, avec ses 855 000 km², Ungava est la plus grande circonscription du Québec.
Mm-hmm.
Donc, M. Napartouk pense que les communautés Cree et Inuit du nord du Québec devraient avoir leur propre circonscription, ce qui pourrait là, être une solution beaucoup plus pérenne puis moins superficielle que ce qui est proposé. Donc, avant de te passer le micro, Mathieu, un événement à annoncer. Ce samedi, il va se tenir à l'UQAM un teach-in, ici dans les locaux de l'UQAM, pour souligner les 10 ans du mouvement Idle No More et en faire une sorte d'état des lieux. Là.
Ouais, bilan.
Ouais, c'est ça. Ça va être ici, pas loin, là, à l'Agora du pavillon Judith Jasmin, à 15h. Et ça va prendre la forme d'un panel avec plusieurs invités, dont Hélène Gabriel et David Suzuki, parmi là, les plus connus. Et le tout va être animé par Mélissa Molène-Dupuis et Widia Larivière, qui sont co-initiatrices là, de Idle No More Québec. Alors voilà, je te passe le crachoir, Mathieu.
Ben écoute, je vais y aller avec un peu de police, racisme et autres. Ben peut-être vous informer, si vous ne savez pas, que la communauté asiatique est en deuil depuis quelques mois à Montréal. Elle s'est rassemblée fin novembre autour des proches de Ronnie Key pour demander des réponses après sa mort aux mains du SPVM. Le 17 septembre 2022, Ronnie Key, un homme d'origine chinoise de 38 ans qui habitait l'île des Sœurs, a été tué par un agent du SPVM durant un épisode de détresse psychologique. Ça nous rappelle d'autres choses.
Ouais,
hein? Depuis, la famille Key ne sait toujours pas pourquoi il a été abattu ni les circonstances. Elle ajoute qu'aucune autorité publique ne leur a offert ses condoléances. Quand même, c'est vrai qu'on ça se fait pas.
Non.
Dans une lettre ouverte co-signée par des dizaines de membres de la communauté et d'autres alliés, la famille Key fait appel au BEI, au coroner, au ministère de la Sécurité publique, à la mairesse, au SPVM pour ouvrir une enquête publique sur le décès de leur frère, et pour avoir un accès immédiat aux services psychosociaux. Et on a su, lors de ce rassemblement-là, que c'est assez bizarre, Michelle Key, l'une des sœurs, a révélé que deux semaines après la mort de son frère, leur mère s'est tout de suite arrêtée par la police.
Mm.
Elle s'est fait refuser un renouvellement de prescription à la pharmacie qui l'a mise dans tous ses états, car elle était toujours sous le choc de la mort de son fils. La pharmacie a appelé la police. Elle a été arrêtée. Est actuellement accusée d'entrave à la paix et va avoir des procédures judiciaires.
Mais voyons, non.
Ben oui, ça va très bien.
Ben, j'imagine qu'ils vont pouvoir plaider les circonstances atténuantes, quelque chose comme ça.
Oui, j'imagine que ça va être abandonné. Toujours parlant du SPVM, mais Ted Rutland dans Pivot, qui est un des spécialistes de la police au Canada, ben, il commence son texte en disant « Projet Montréal a déposé un budget pour 2023 comprenant une augmentation de 63 millions pour le SPVM par rapport à ce qu'il y a déjà, des centaines de millions. Si approuvé, ce sera la plus importante augmentation du financement des forces policières de l'histoire de Montréal. Si l'on examine les 10 plus grands services de police urbain au Canada, le SPVM se distingue à plusieurs égards. Il s'agit du service de police qui compte le plus grand nombre de policiers par habitant, si on le savait. Il a également enregistré l'augmentation budgétaire la plus importante entre 2020 et 2022. » L'augmentation budgétaire en 2022 était cette année 45 millions. On propose 63 pour l'année prochaine. Il y a eu en plus de l'augmentation en 2022 de 45 millions, il y a eu une injonction de 45 millions par le gouvernement du Québec en août pour embaucher davantage de policiers dans le cadre des violences armées.
Ah ouais.
Un autre 25 millions pour assurer la sécurité lors de la COP 15 et enfin un autre 2,6 millions la semaine passée pour boucler l'année. Fait que faites tout le calcul de tout ça, là. Et elle se distingue par ses dépassements de coûts, en plus. En 2017 et 2021, le SPVM a dépassé son budget de 30 millions en moyenne.
Il dépasse tout le temps.
En 2022, c'était 50 millions. Fait que là, c'est exponentiel. Non, c'est ça n'a aucun mot du bon sens.
Je pense que c'est le seul service qui a le droit de dépasser ses budgets. Oui. Avec peut-être les pompiers
ça
aussi.
Ça se peut, oui.
Oui, oui. Puis dans d'autres villes, ils n'ont pas le droit, les services municipaux, de dépasser le budget. T'as raison, Simon. Non, la police.
Fait que c'est ça, le définancement de Projet Montréal.
Oui, le refinancement de Projet Montréal. Justement, parlant de Projet Montréal, la Ville a sondé en 2020 la population sur ses priorités budgétaires. 73% des Montréalais ont indiqué préférer un budget policier plus bas. Un résultat que Projet Montréal a ignoré. Pour éviter une réponse que le parti préfère ne pas entendre, la question a été exclue des sondages ultérieurs en 2021 et 2022. Sinon, ben, les propos controversés de Luis Miranda, le maire d'Anjou, de l'arrondissement d'Anjou à Montréal, qu'il a tenu à l'endroit d'Austin Ouendi, un jeune homme de 15 ans, en octobre dernier, continue de le hanter. Le père du jeune homme, Smaïl, a déposé une plainte contre M. Miranda à la Commission des droits de la personne. Il s'agit de la deuxième plainte à être déposée par la famille le 31 octobre dernier. La mère, la mère de Chiné, avait déposé une plainte à la Commission municipale du Québec suggérant que le maire avait violé 4 articles du Code d'éthique et de conduite des élus. Rappelons qu'Austin Ouendi s'était fait rabrouer par M. Miranda parce qu'il s'était présenté au conseil d'arrondissement pour dénoncer l'interdiction du soccer libre sur des terrains synthétiques. Employant un ton et des propos agressifs, le maire a référé aux incivilités commises par des gangs, comme s'il associait le jeune à ce problème. Il a aussi reproché au jeune homme de l'avoir affronté avec sa question. Cette dernière plainte de la famille Ouendi repose à la fois sur des dénonciations d'âgisme et de profilage racial à la commission. Il faut savoir aussi qu'il y a eu une motion de blâme qui a été adoptée par le conseil municipal de Montréal en octobre, reconnaissant la portée discriminatoire des propos de M. Miranda, à l'unanimité quand même au conseil de ville de Montréal. Fait que à suivre comme histoire, évidemment.
Ben oui.
Sinon, quelque chose d'un peu triste. L'affaire Mike Ward a entraîné la fermeture de 194 dossiers de propos discriminatoires par la Commission des droits de la personne. Je parle encore d'elle. La décision de la Cour suprême, qui a donné raison à l'humoriste, précisait que la Commission avait outrepassé sa juridiction en intervenant dans des dossiers de propos discriminatoires. Le plus haut tribunal décida que la protection contre la discrimination prévue dans la Charte ne crée pas un droit de ne pas être offensé. Il faut souligner que 73% de ces dossiers concernaient des propos racistes, quand même. En 2021-2022, la commission a reçu près de 2300 demandes d'enquête et a ouvert 548 enquêtes, soit beaucoup moins que les 839 d'années précédentes. Donc, on voit les faits, là.
Ouais.
Sinon, au niveau de la discrimination, le handicap est toujours à 38% des demandes d'enquête, le racisme à 27%. En matière de profilage racial, 69 dossiers ont été ouverts, soit une baisse marquée par rapport aux 86 en 2021 et 76 en 2019-2020. Donc, voilà ce que j'ai le temps pour un dernier sujet.
Oui, ouais. À peu près une minute.
Ah, ben écoute, ben rapidement. Trois ministres libéraux ont décliné l'invitation à témoigner au Sénat alors que la Chambre haute, se demande pourquoi le Canada refuse toujours de permettre aux travailleurs militaires d'aider en Afghanistan.
Ah oui.
Le comité sénatorial des droits de la personne tient des audiences actuellement sur les règles fédérales antiterroristes qui empêchent les groupes de travailler en Afghanistan. Les groupes humanitaires disent que les responsables canadiens leur ont conseillé de ne pas payer les gens en Afghanistan ou d'acheter des biens là-bas parce que payer des impôts pourrait s'apparenter à soutenir une organisation terroriste. Les talibans, pour pas les nommer. Les députés ont entendu parler de l'affaire au début de l'année. Ils ont recommandé dans un rapport publié en juin qu'Ottawa prenne l'exemple de ses alliés et des Nations unies en modifiant ses lois pour préciser que l'acheminement de l'aide ne mènera pas à des poursuites pour les groupes humanitaires. Trudeau a jamais expliqué pourquoi ça prend autant de temps, pourquoi ça bouge pas. Des hauts juristes soutiennent qu'Ottawa interprète mal ses propres lois, étant donné que le fédéral a admis que les talibans gouvernent l'Afghanistan, qui est en pourparlers régulier avec le régime pour toutes sortes de raisons. Donc, les ministres Mandy Chineau, Arjit Sajjan et David Lametti ont refusé de participer aux audiences prévues la semaine passée et cette semaine. Et on rappelle, en terminant, que ça équivaut un peu à une punition collective pour les 40 millions d'Afghans du pays.
Ben oui.
C'est des groupes communautaires, des groupes humanitaires qui soutiennent ça parce que on s'attend que actuellement l'hiver est là et que, voyons, la moitié de la population est maintenant classée comme étant en situation de crise d'insécurité alimentaire et 6 millions sont officiellement menacés de famine après l'effondrement de l'économie et la hausse des prix, et etc., etc. Donc, c'est à suivre parce que le gouvernement ne veut pas répondre, refuse de se présenter devant les commissions, puis ils disent pas pourquoi et quand ils vont finir par laisser les groupes humanitaires travailler comme du monde, comme l'ont fait tous ses alliés.
Ben merci Mathieu.
Hey, merci Marie-Ève.
Écoute, encore une fois, on quelques notes de musique. Ben en fait, on s'en va en musique carrément, que je vous présente ça au retour.
Laisse-le brûler! On check tout le temps. C'est un peu la faute de tes deux grands-parents. C'est l'heure des lits qu'on entend aux nouvelles.
rock montréalais Rouge Pompier avec la pièce Des ruines sur le trottoir qui est tirée de leur dernier album intitulé Neve Campbell, paru en novembre et qui occupe la 20e position du palmarès francophone de choc.
Actrice de Scream.
Oui, c'est ça, mais c'est à la fois une réédition et une suite de leur troisième album qui était paru là, en 2020 puis qui s'intitulait Neve Campbell. Fait que là, c'est un Neve Campbell. Chacune des pièces a été repensée et réarrangée comme étant la suite d'une autre chanson du précédent album, tant au niveau du titre là, que des textes. Puis si vous voulez les voir en show, ils vont jouer le 23 décembre là, dans le cadre de Noël dans le parc à 20h à la place Émilie Gamelin. Puis juste après eux autres, ça va être Planète Smashers.
Alors, oui, c'est gratis.
C'est gratis. Avant de poursuivre avec Simon et son blog sur l'immigration, ouais. Deux nouvelles sur le même sujet. D'abord, les conclusions d'une nouvelle recherche de l'Association d'études canadiennes montrent que le Canada a progressivement là, réduit l'écart avec les États-Unis en matière d'attraction et de rétention de nouveaux résidents permanents. En 2021, les nouveaux résidents permanents aux États-Unis étaient au nombre d'un peu plus de 738 000, ce qui est bien en deçà du 1 million de il y a deux ans, tandis qu'ils étaient plus de 405 000 au Canada et que là, ben, le gouvernement fédéral, comme on sait, prévoit de dépasser ce chiffre-là au cours de chacune des trois prochaines années. Il y a même Toronto qui a dépassé la région de New York en tant que destination la plus populaire pour les nouveaux résidents permanents. Sinon, ben, je vous annonçais en introduction de l'émission une nouvelle de dernière heure. Ça concerne l'entente sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis. Le ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco Mendicino, encore lui, Mathieu, a affirmé hier qu'un accord a été trouvé pour moderniser l'entente. Cet accord doit maintenant être ratifié par les deux gouvernements. Les modifications apportées à l'entente sur les tiers pays sûrs permettraient aux autorités canadiennes de renvoyer des demandeurs d'asile qui entrent au Canada par des points d'entrée irréguliers à la frontière terrestre. Le ministre a, par contre, pas révélé les détails là, de la révision de l'entente qui concerne particulièrement la circulation des demandeurs d'asile entre les deux pays. Par exemple, si les changements s'appliqueraient à l'ensemble de la frontière canadienne ou seulement au chemin Roxham. Mais là, alors que d'un côté, le ministre Mendicino affirme être très confiant que le processus de négociation soit fini et qu'il reste juste, dans le fond, la ratification de l'accord par les États-Unis, Justin Trudeau, lui, il est pas aussi optimiste que son ministre, puis il dit qu'il y a encore du travail à faire. Donc, entre les deux, on sait pas trop ce qui se passe. Puis, au-delà de ça, on se demande aussi ce que veulent dire exactement les propos de Mendicino, parce que là, présentement, le texte de l'entente sur les tiers pays sûrs, ben, il est devant la Cour suprême. Tu sais, il est examiné par la Cour suprême du Canada. Puis, elle doit rendre, là, normalement, une décision dans les prochaines semaines. C'est que, comme si vous vous rappelez, tu sais, plusieurs groupes, ainsi que le Bloc québécois et les NPD, demandent depuis plusieurs années que l'entente soit suspendue, entre autres pour permettre aux personnes migrantes de faire leur demande dans n'importe quel poste frontalier du pays, sans nécessairement, justement, passer par le chemin Roxham. Je rappelle qu'en janvier et octobre 2022, c'est près de 31 000 personnes migrantes qui ont été interceptées par la GRC au Québec, essentiellement au chemin Roxham. Legault, lui, il dit que c'est 36 000, mais plus de 36 000, mais bon. Mathieu, ton micro, il est fermé.
Il dit 3 millions, hein, François Legault?
3 millions! Ben là. Fait que je te cède la parole, mon cher Simon.
Ben oui, le chemin Roxham, ce fameux complot de Justin Trudeau pour angliciser le Québec.
Oui, c'est un complot des woke.
Bon, quelques changements. Je vais vous parler du fédéral, justement. Quelques changements annoncés au niveau fédéral, mais du côté provincial, la stagnation habituelle. Notre nouvelle ministre de l'Immigration, Christine Fréchette, c'est pas encore notre meilleure, mais ça risque de la devenir. Elle a annoncé les cibles pour 2023 et on va rester à environ 50 000 nouveaux résidents permanents au Québec, exactement la même cible qu'en 2022. Donc, dans les faits, il s'agit d'une diminution, puisque par rapport à la population totale qui, elle, augmente année après année, bien, si on reste avec les mêmes objectifs, proportionnellement, on accueille moins de monde. Après, ça se plaint que le poids démographique du Québec au Canada diminue.
Ouais,
ben oui, toujours. Ben, on n'est pas toujours cohérent.
La catégorie de l'immigration économique domine largement les cibles 2023 au provincial au Québec, mais du côté des réfugiés, on anticipe en accueillir seulement 7 000, à peu près 7 000, donc few, ça devrait rassurer notre milice de chroniqueurs xénophobes de l'Empire poubelle. Par contre, ce qui pourrait leur faire peur, c'est que les chiffres réels seront dans les faits entre 65 000 et 70 000
oui,
personnes
sélectionnées. Oui, parce qu'il faut qu'ils rattrapent un recul, il me semble.
Exactement. Donc, c'est Québec qui sélectionne en fonction de ses propres cibles, mais c'est Ottawa qui approuve et il y a un retard à cause de la pandémie qui est assez important pour les 3 dernières années. On est en train de rattraper.
C'est ça.
Ce retard-là. Donc, il y a eu des ajustements des chiffres réels par le provincial, sauf pour la catégorie des réfugiés qu'on a maintenu au niveau d'avant les retards du fédéral. Donc, on a subtilement opéré un petit transfert de ce qui aurait dû être ajouté à la catégorie des réfugiés vers l'immigration économique. Donc, finalement, on a comme un peu profité de l'exercice comptable pour baisser la proportion de réfugiés que Québec voudra bien accueillir.
Oh, on appelle ça de la comptabilité créative.
Oui, c'est ça. Puis un peu secrète aussi, parce que c'est pas... on s'en vante pas, tu sais, du côté des... Donc, on a beaucoup entendu aussi Legault dire en campagne électorale qu'il voulait une immigration économique 100% francophone. Donc, on n'en est pas encore là, évidemment, mais on continue de l'évoquer pour les années à venir, agitant toujours le spectre d'une méchante immigration qui menace la culture, la langue et les belles valeurs québécoises. Et on continue aussi de parler de la dernière thématique à la mode, la régionalisation de l'immigration qui va contribuer à la francisation des migrants qui seront déjà francophones avant même d'avoir été sélectionnés. C'est-tu pas beau tout ça? Pourtant, la francisation, c'est surtout une question de moyens, selon moi. Donc, 2022 est déjà annoncé comme une année record fracassante dans les classes de francisation. Les immigrants, il n'y a vraiment pas de doute, ils veulent apprendre le français si on se fie au nombre d'inscriptions. Mais on manque cruellement de locaux, de profs, de personnel administratif pour gérer tout ça. Donc, bref, si on y tient tant que ça au français, peut-être qu'il faudrait y consacrer les ressources nécessaires. Je suis un peu éditorial, hein? Je ne sais pas si je suis hors mandat, mais fuck off, j'y vais comme ça.
On va fermer ton micro, ça
continue. Bon, vous allez mettre de la musique de gala. Là,
c'est ça.
Je passe au niveau fédéral, donc des plutôt bonnes nouvelles, donc vous allez peut-être vouloir garder mon micro ouvert. Donc premièrement, on a appris fin novembre que les demandeurs d'asile n'auront plus à attendre environ 1 an avant de recevoir leur permis de travail. Les délais vont être ramenés à environ 1 mois, ce qui est une très grande amélioration. Donc, pouvoir travailler légalement et non au noir, ça fait une grande différence dans la vie des demandeurs d'asile à tous les niveaux. Ce qui menait les délais à plus d'un an, c'était qu'il fallait avoir passé ce qu'on appelle dans le jargon administratif un entretien de recevabilité avec des agents frontaliers. Et c'est à ce niveau-là où ça bloquait là, avant d'obtenir son rendez-vous. C'était extrêmement long. La nouvelle procédure simplifiée est applicable immédiatement et concerne tout demandeur d'asile qui n'a toujours pas de permis de travail, incluant ceux et celles qui seraient toujours en attente du fameux entretien de recevabilité. On peut déjà sauter cette étape, mais par contre, je ne suis pas certain s'il faut faire une nouvelle demande de permis de travail. Donc, si vous connaissez des gens dans cette situation-là, je les inviterai à s'informer le plus rapidement possible. Je disais 2 bonnes nouvelles d'Ottawa. La deuxième, elle concerne les membres des familles de certains travailleurs étrangers temporaires. À partir de janvier 2023, donc là, ils pourront occuper un emploi plutôt que de vivre au crochet du travailleur temporaire. C'est pas tant un excès spontané de générosité de la part du fédéral, on s'en doute, c'est beaucoup les pressions du patronat à cause des pénuries de travailleurs dans à peu près tous les secteurs d'emploi qui motivent cette décision-là. Mais ça va quand même contribuer à aider beaucoup de monde, non seulement financièrement et au niveau de l'intégration, mais possiblement aussi, quand tu occupes un emploi depuis un certain temps, que tu es backé par tes collègues, par ton employeur, ben ça peut drôlement faciliter ta demande de résidence si tu veux en faire une. J'extrapole peut-être un peu trop, on n'en est pas encore là, mais et je disais en plus, ben ça concerne les familles de certaines catégories de travailleurs temporaires. Mais on estime quand même à 200 000 travailleurs étrangers temporaires et en incluant les membres de leur famille, on en arrive à presque 1 million de personnes qui seront touchées. Donc, ça concerne quand même beaucoup de monde. Il y a des contraintes, comme je disais, la durée prévue de cette mesure-là est de 2 ans, mais d'après moi, elle va être reconduite puisque les pénuries de main-d'œuvre vont se reconduire d'elles-mêmes aussi. Pour l'instant, ça s'applique seulement à la catégorie des travailleurs temporaires dits à haut salaire, mais on indique que ça va bientôt s'étendre à l'ensemble des travailleurs temporaires, ceux qu'on, je sais pas si on les appelle à bas salaire, mais la date précise n'a pas encore été connue, mais éventuellement, ça va s'appliquer à tout le monde. Donc, même recommandation pour les demandeurs d'asile en attente d'un permis de travail. Si vous connaissez des membres de famille de travailleurs étrangers temporaires, propagez la nouvelle. Il y a de fortes chances pour eux et elles que ce soit désormais possible de travailler en toute légalité avec des droits en plus.
Ouais.
Maintenant, dernière brève pour terminer ce segment Actualité Immigration Québec-Canada. Il y a deux semaines, on vous parlait des marchés Adonis, qui est un peu comme Amazon, Dollarama et autres, avait un bilan médiocre en matière de traitement de sa main-d'œuvre immigrante. On va ajouter à la liste de ces cancres-là le Club Med de Charlevoix.
Ah oui.
Qui est probablement pas pire que les Club Med dans les destinations tropicales où je ne suis pas sûr que les conditions de travail sont très bonnes, mais on est au Québec quand même. Donc, ce qu'on reproche au Club Med Charlevoix, c'est non seulement son architecture de cégep des années 70 dans un site magnifique, c'est surtout le traitement différencié flagrant entre les travailleurs canadiens et les travailleurs étrangers temporaires, surtout des personnes mexicaines, la plupart qui travaillent en entretien ménager et en cuisine avec des permis fermés. Donc, ils sont complètement à la merci de Club Med Charlevoix. Au niveau des salaires, on donne environ 25 % de moins. On impose du temps supplémentaire obligatoire, ce qu'on ne fait pas pour les travailleurs citoyens canadiens. Ouais. Il y en aurait eu à peu près 200 des Mexicains qui ont travaillé pour le Club Med depuis 2 ans. Donc, si on fait le compte, les heures payées moins chères, les heures pas payées, c'est une méchante économie quand pour le Club Med qui profite de cette pénurie de main-d'œuvre pour avoir accès à des programmes de travailleurs étrangers temporaires puis qui économisent probablement des millions là-dessus. Il y a un grief actuellement des Teamsters sur cette question précise. Et les problèmes, c'est aussi sur le logement. Donc, loger dans des chambres de motel, dans des gymnases, souvent pas accès à des cuisines, à plusieurs kilomètres, dépendant des navettes entre les lieux de travail et tout. Des horaires qui changent tout le temps, qui sont donnés à la dernière minute, donc impossible de faire des plans pour sa vie personnelle. Donc, voilà, une autre entreprise qui manipule n'importe comment une main-d'œuvre étrangère aussi captive que jetable. Et je ne crois pas qu'on soit la clientèle cible de ce genre de resort cher et clinquant, mais disons que si on hésitait, on sait maintenant qu'on n'ira pas au Club Med Charlevoix.
Non, OK, on va boycotter ça, s'il vous plaît, chers auditeurs, auditrices.
Ouais, je ne sais pas si beaucoup d'auditeurs, auditrices de Choc pensaient aller là. Pas sûr.
Non. Je me tourne maintenant vers les États-Unis, plus précisément San Francisco, où la ville voulait permettre à sa police d'utiliser des robots tueurs. Okay. Une excellente idée. Au début du mois, le conseil municipal de Francisco, San Francisco, s'est en effet montré favorable et quand même par 8-3 à l'adoption d'une résolution prévoyant l'usage par les forces de l'ordre de robots capables de tuer dans certains cas extrêmes comme les attaques terroristes ou les tueries de masse. Heureusement, le vote a été renversé le 6 décembre, allant même jusqu'à explicitement interdire l'utilisation de tels robots. Je sais pas trop ce que le conseil municipal pensait en appuyant cette idée-là. Peut-être qu'il se disait que les choses seraient beaucoup plus simples avec des robocops qui peuvent pas avoir de questionnement éthique ou de remords. Mais bon, je pense que si il y a une chose que le mouvement Black Lives Matter nous a appris, c'est justement que c'est déjà le cas avec les flics humains, non? En plus, les risques sont assez grands que le gentil robocop se transforme éventuellement en Terminator.
Il y a un petit bug.
Sinon, un petit suivi qui m'a fait rire jaune, je dois le dire, dans le dossier du complotiste états-unien Alex Jones, dont Simon nous a parlé il y a quelques semaines.
Il y a du nouveau?
Oui, on se rappelle qu'il avait été condamné à verser près de 1,5 milliard US après avoir nié le massacre de l'école Sandy Hook. Eh bien, il s'est déclaré en faillite personnelle au début du mois. Et donc, si la justice avalise cette faillite, la procédure va geler ses actifs et empêcher leur suivi. Jones dit, pauvre lui, que ses dettes excèdent largement ses actifs, qui se situent entre 1 et 10 millions. C'est quand même une popée de marge, entre 1 et 10 millions. Mais même si, si l'étendue de sa fortune n'est pas connue, les experts estiment que Jones et Free Speech Systems, qui est la société mère d'InfoWars, ils estiment que ça vaut probablement entre 135 et 270 millions de dollars. Je rappelle que aussi, des données présentées lors du procès ont montré que les revenus du site InfoWars avaient presque quintuplé du jour au lendemain, lorsque Jones a affirmé à tort qu'un rapport du FBI montrait que personne n'était mort en 2012 à Sandy Hook. Selon des experts aussi, tout ça démontre l'intérêt que les créateurs de contenu en ligne ont à mettre de l'avant des théories du complot qui peuvent devenir virales. Mais ils disent aussi que le problème fondamental dépasse Jones et relève en réalité du modèle économique lui-même et de ses effets toxiques. Je cite d'ailleurs Danny Rogers du Global Disinformation Index. Je cite donc, « Cela crée un monde entier d'Alex Jones qui polarise le discours et infuse de la peur et de la colère pour des clics et pour de l'argent. Tant que cela ne changera pas, nous passerons simplement d'un Alex Jones à l'autre. » Et on peut dire que ça se bouscule au portillon, justement, puisque Jones leur fait une place de choix à son émission InfoWars. Le cas le plus récent, c'est Kanye West, qui a avoué son admiration pour Adolf Hitler et les nazis lors d'une entrevue avec Jones. L'artiste, qui se fait désormais appeler Ye, et qui portait une cagoule noire couvrant la totalité de son visage, a tenu les propos suivants. Ce mec, Hitler, a inventé les autoroutes, a inventé le microphone que j'utilise comme musicien. On peut pas dire publiquement que cette personne a fait quoi que ce soit de bien. J'en ai assez. J'aime Hitler.
C'est lui qui a inventé le microphone, ben oui.
Au-delà du fait qu'Hitler, justement, a inventé ni les autoroutes ni le microphone, ses propos sont tellement scandaleux que même Alex Jones lui a rétorqué que, je cite, « Les nazis étaient des voyous et ont fait des choses très mauvaises. » Fin de la citation. Ce à quoi Kanye West a répliqué « Mais ils ont fait de bonnes choses aussi. Nous devons arrêter d'insulter les nazis en permanence. J'adore les nazis. » Fin de la citation. Je vous rappelle que cet infâme personnage a récemment suggéré qu'il pourrait briguer la présidence des États-Unis en 2024. Alors, après ces quelques notes, on va se diriger vers la fin de cette émission. Alors, sur un fade-out, c'est ce qui clôt notre émission aujourd'hui, des Apatrides Anonymes, qui, je le rappelle, était la dernière de 2022. On va être de retour après les fêtes, probablement le 12 janvier, pour un bilan de la dernière année, comme on essaie de vous faire chaque année, et aussi peut-être nos prédictions pour celle qui vient.
Peut-être un quiz, on ne sait pas.
Ah, peut-être.
Peut-être des blagues.
Oh, j'ai ri déjà.
De bonnes blagues. Merci Mathieu et Simon. Ça fut une très belle année à votre compagnie.
Une très bonne émission aujourd'hui. Merci Marie-Ève pour l'animation.
Ça me fait toujours un plaisir.
Merci Marie-Ève. Merci Mathieu.
Oui, c'est beau.
J'ai appris plein de choses.
Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter aussi sur les ondes FM du 107,9 de Radio Victoria. Le dimanche à 14h et le mercredi à 13h30. Vous pouvez aussi nous écouter en balado en vous rendant sur notre page sur le site de choc.ca ou encore sur notre site internet www.apatridesanonymes.info. Écrivez-nous à apatridesanonymes@resist.ca et suivez notre page FB. OK, les deux gars s'adorent au gaz. On va se laisser donc en musique avec le batteur et compositeur montréalais Aaron. Pardon?
FB.
Oui, ben t'es un peu en retard, Mathieu. OK, je recommence. On se laisse en musique avec le batteur et compositeur montréalais Aaron Dahlman et sa pièce « To Hold Love » qui est tirée de son deuxième album intitulé « Are You Here to Help » qui est sorti en mars et sur lequel on peut entendre les chanteuses Sarah Rossi et Eugénie Jobin, que je ne connais point, mais qui ont de très jolies voix, vous allez voir. Alors, je vous dis bonne écoute et on vous souhaite de passer de joyeuses fêtes.
Et une belle soirée, évidemment.
Ben oui, on peut commencer par ça, effectivement, Mathieu.
Bye bye tout le monde.
À bientôt.